Bonjour, bonsoir, selon de quelle partie du monde vous nous écoutez. Qui vous parle, Eric Domergue, vous donne la bienvenue à un nouveau programme en français de RAE, l'Argentine vers le monde. Avec la production de Silvana Avellaneda, Julien Cortés, responsable du web, et sous la direction de Adrien Corol, nous vous apportons les nouvelles et les rubriques habituelles sur le pays et la région. Maintenant, place à l'actualité, préparée par Fernando Farias. Les titres. Le gouvernement argentin a demandé à la Russie de cesser ses attaques contre l'Ukraine. Les exportations de céréales argentines ont atteint un niveau record en 2021. La lutte contre les incendies se poursuit dans la province de Corrientes. La Colombie légalise l'avortement jusqu'à 24 semaines de grossesse. L'Argentine commémore 118 ans de présence ininterrompue en Antarctique. L'Amérique du Sud est le continent où la couverture Covid est la plus élevée, selon la ministre argentine de la Santé. Au Brésil, un nouveau sondage indique que Lula remportera l'élection présidentielle au second tour. L'Argentine a appelé la Russie à mettre fin aux attaques contre l'Ukraine qui ont commencé tôt jeudi matin. Dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères exprime son rejet le plus ferme du recours à la force armée et regrette profondément l'escalade. Dans ce message, Buenos Aires affirme que des solutions justes et durables ne peuvent être obtenues que par le dialogue et des engagements mutuels qui garantissent l'indispensable coexistence pacifique. Pour cette raison, poursuit le document, l'Argentine appelle la Fédération de Russie à cesser ses actions militaires en Ukraine. En ce qui concerne la région, les gouvernements de Cuba et du Venezuela ont exprimé leur soutien à Moscou, selon lequel les opérations militaires sont défensives. En revanche, la Colombie, l'Uruguay et le Chili ont fermement condamné le Kremlin pour ses attaques. Pour sa part, le Mexique a appelé à la diplomatie pour résoudre le conflit, tout en réclamant le respect de l'intégralité territoriale de l'Ukraine. Le Brésil a également appelé au dialogue et à une solution pacifique qui tienne compte des droits légitimes de la Russie et de l'Ukraine en matière de sécurité. L'Équateur a appelé à des négociations entre Kiev et le Kremlin, conformément aux directives de l'ONU. Selon la bourse de commerce de Rosario, les exportations de céréales argentines ont atteint un volume record en 2021. La source a fait état d'un total de 60 600 000 tonnes, dépassant le maximum de 2019 de 300 000 tonnes. Dans un rapport, l'entité a mis en avant comme origine de cette augmentation la reprise du commerce mondial après la baisse des ventes en 2020 en raison de la pandémie. La bourse a également souligné la hausse des prix internationaux des produits de base exportés par l'Argentine, maïs, soja et blé. Le maïs a représenté la plus grande part des expéditions avec près de 40 millions de tonnes. En termes de destination des exportations, la principale a été l'Asie, la Chine en tête avec plus de 50% du total. Les feux de forêt se poursuivent dans la province de Corrientes, dont près de 10% du territoire est aux proies aux flammes. Près de 500 brigadistes travaillent à combattre l'incendie qui menace même l'importante réserve naturelle du marais d'Iuela, l'une des principales zones humides du continent américain. Selon une ONG environnementale, 40% du parc national d'Iuela a été affecté par l'incendie. Cela équivaut à 74 000 hectares de zones humides, prairies et forêts uniques en leur genre en raison de leur biodiversité. La justice de Corrientes enquête sur des dizaines de plaintes pour intentionnalité présumée dans les incendies. Dans ce contexte, le président Alberto Fernández a ratifié à la province le soutien absolu de la nation dans la crise. Les gouvernements central et provinciaux mettent déjà en œuvre diverses initiatives visant à fournir des fonds pour aider les secteurs les plus durement affectés par la catastrophe, notamment l'agriculture et l'élevage. Selon le ministre de l'Environnement, Juan Cavandier, la quasi-totalité des incendies qui font rage dans la province de Corrientes sont dus à l'action humaine, car l'analyse de la situation climatique des deux derniers mois ne signale pas que la foudre ait provoqué les incendies. Devant la commission sénatoriale de l'Environnement, Cavandi a souligné que le brûlage des champs et le drainage des zones humides à des fins agricoles constituaient d'autres facteurs aggravants. La Colombie légalise l'avortement jusqu'à 24 semaines de gestation, soit le délai le plus long de tous les pays d'Amérique latine qui autorisent l'interruption volontaire de grossesse. La Cour constitutionnelle a statué dans une décision célébrée par des centaines de manifestantes qui attendaient devant le tribunal dans la capitale Bogota. Jusqu'à présent, en Colombie, l'avortement n'était autorisé que dans trois cas : risque pour la santé de la femme enceinte, abus sexuel ou malformation grave du fœtus. La limite de 6 mois pour les femmes colombiennes est la plus longue d'Amérique latine et est similaire à celle du Canada et du Royaume-Uni. De son côté, le président de la Colombie, Iván Duque, a rejeté la légalisation de l'avortement, pour qui il en fera une pratique quasi contraceptive et une excuse pour ne pas utiliser de préservatif. Rappelons qu'il y a quelques jours, l'Équateur a prouvé l'avortement en cas de viol et qu'en 2021, le Chili a mis en œuvre l'interruption volontaire de grossesse. L'Argentine l'avait déjà fait à la fin de 2020. L'Argentine commémore 118 ans de présence ininterrompue en Antarctique, où elle dispose de 13 bases vouées principalement à l'activité scientifique. Le 22 février 1904, le drapeau argentin est hissé sur le premier des établissements fondés par le pays sur le continent blanc, la base d'Horcadas. L'Argentine est le pays qui séjourne le plus longtemps en Antarctique, avec 6 stations fonctionnant toute l'année et 7 ne le faisant que pendant l'été. Selon la ministre argentine de la Santé, Carla Bisotti, l'Amérique du Sud est la région du monde où la couverture contre le Covid est la plus élevée. Elle a précisé que cette note a été atteinte malgré les difficultés d'accès au vaccin. Elle a souligné que l'Argentine se situe même au-dessus de la moyenne régionale avec un total de 110 millions de vaccins administrés et 80% de sa population vaccinée avec 2 doses. De cette manière, a-t-elle souligné, le pays a déjà atteint l'objectif d'inoculation fixé par l'OMS pour le mois de juin. Au Brésil, un nouveau sondage indique à nouveau une possible victoire de l'ancien président Lula da Silva aux élections générales d'octobre. Selon Future Intelligence, l'actuel président Jair Bolsonaro, qui brigue la réélection, remporterait le premier tour avec 34,3% des voix, soit seulement un point d'avance sur Lula. Toutefois, au second tour, le leader de gauche l'emporterait avec 48%, tandis que l'actuel chef de l'État n'obtiendrait que 40%. Lula accéderait ainsi à sa troisième présidence après avoir gouverné le Brésil pendant 2 mandats consécutifs entre 2003 et 2011. L'Argentine négocie un difficile accord avec le Fonds monétaire international sur les 44 milliards de dollars prêtés au gouvernement de droite libérale de Mauricio Macri et volatilisés sans que le pays en ait bénéficié. Rien de bon sortira de l'actuelle négociation. Le tout est de savoir s'il y aura plus ou un peu moins d'ajustements, de restrictions aux retraites, aux plans sociaux, aux services publics, etc. Comment en voit-on cette situation depuis la France? RT France en parle lors du passage du président argentin à Paris fin 2021. Sur Europe 1, Vincent Hervouet s'intéresse au cas de l'Argentine. Le pays est pris à la gorge et des milliers de personnes ont envahi les rues pour protester, dit-il, ce que reporte aussi France 24. Finalement, le dessous des cartes sur Arte vient de consacrer un programme sur l'Argentine appelé Voyage en Argentine, le pays des occasions manquées.
On s'intéresse à la situation économique de l'Argentine alors que son président Alberto Fernandez est en escale à Paris. C'est une des étapes de sa tournée européenne après Lisbonne et Madrid. Il va donc déjeuner avec Emmanuel Macron tout à l'heure et au menu, la renégociation de la dette extérieure de l'Argentine.
Oui, Pauline, cette renégociation, elle porte notamment sur un prêt de très grande ampleur accordé par le FMI à l'Argentine en 2018, 45 milliards de dollars que le pays doit rembourser au cours des 3 prochaines années. Mais selon le président argentin, je cite, « la dette telle qu'elle est actuellement est impossible à rembourser ». Alberto Fernandez a déjà obtenu le soutien des premiers ministres portugais et espagnols en début de semaine et il espère convaincre tout à l'heure Emmanuel Macron de se joindre à eux. Alors, pour mieux comprendre les enjeux de ce dossier, je suis en direct avec Gustavo Orenstein, économiste à Dorval Asset Management. Alors, l'Argentine doit rembourser près de 45 milliards de dollars au FMI au cours des 3 prochaines années, un prêt obtenu en 2018, alors que le pays faisait déjà face à une dégradation de sa situation économique et monétaire avec une forte chute de sa monnaie. Mais depuis, la situation ne s'est pas arrangée avec la pandémie de Covid-19 qui a touché de plein fouet l'économie du pays.
Oui, effectivement, l'Argentine a énormément souffert de la pandémie, hein, sur le plan économique et sur le plan social également. Donc en 2020, le PIB s'est contracté de presque 10%. Et le taux de pauvreté est aujourd'hui de 42%. Avant la crise, il était autour de 25%, il était déjà élevé. Mais là, 42% est un niveau extrêmement élevé de souffrance sociale. Encore donc, en mois d'avril, hein, il y avait à peu près 20 000 nouveaux cas de Covid par jour. Et du coup, le gouvernement a été obligé de refermer l'économie, au moins partiellement. Alors heureusement, les nombres de cas sont aujourd'hui en train de ralentir. Et la vaccination progresse doucement, mais progresse quand même. Donc on note en Argentine, comme d'ailleurs dans le monde d'ailleurs, que lorsqu'il y a des réouvertures, il y a une accélération assez forte de l'activité. Et les prévisions pour cette année sont d'un rebond de 7% du PIB, donc un rebond assez important. Alors évidemment, comme partout dans le monde, les finances publiques ont servi d'amortisseur pour faire face à cette crise. Et donc le déficit budgétaire s'est très largement creusé, hein, le déficit budgétaire primaire, l'année dernière, a atteint 6,5% du PIB. Et donc, bon, ça a été évidemment très difficile à financer. Alors, comment ça a été financé? Ça a été financé avec l'argent du FMI et également par la contribution de la Banque Centrale Argentine, donc par la monétisation de ce déficit, ce qui provoque aujourd'hui une très forte accélération de l'inflation. L'inflation en Argentine en ce moment est autour de 35% et on se dirige tout droit vers 50%. Donc ça, c'est une des grandes difficultés auxquelles va faire face le gouvernement argentin dans les prochains mois.
Qu'est-ce qu'il peut espérer de ces discussions ?
Alors, officiellement, le président argentin veut réduire la surcharge sur les prêts du FMI. Donc, il y a une surcharge qui est technique sur le taux d'intérêt que paye aujourd'hui l'Argentine. Il veut réduire cette surcharge. Mais il faut bien comprendre que tout est politique en Argentine. Et donc, c'est plus complexe que ça. Grâce à la restructuration de la dette l'année dernière, donc 65 milliards de dollars de dettes, d'obligations internationales qui ont été restructurées l'année dernière, et également grâce à la très forte hausse du soja, des cours du soja depuis le milieu de l'année dernière, l'Argentine aujourd'hui n'est pas extrêmement pressée pour renégocier le programme avec le FMI. Donc je pense que le problème n'est pas la négociation avec le FMI qui va être relativement facile, mais plutôt une négociation interne à l'Argentine, entre d'un côté le président Alberto Fernandez et son ministre de l'économie Martin Guzman et de l'autre la vice-présidente Cristina Kirchner, où il y a une instrumentalisation des négociations avec le FMI en vue notamment des élections qui arrivent. Donc je crois que là il y a une question de politique interne qui est plus forte que la question de la négociation avec le FMI qui devrait normalement ne pas poser énormément de problèmes.
L'heure des experts sur Europe 1. Bonjour Vincent Hervouet pour l'International.
Bonjour Dimitri.
Pour l'heure, direction Vincent, l'Argentine. C'est le suspense à Buenos Aires ce matin. Le pays doit rembourser d'ici demain un petit peu moins de 2 milliards de dollars au Fonds monétaire international.
Oui, les Argentins ont l'impression de s'ouvrir les veines. Ils payent la première traite du prêt accordé en 2018, un prêt de 44 milliards de dollars, le plus important jamais consenti par le FMI. Depuis, la crise a rebondi, le Covid l'a aggravé, les péronistes sont revenus au pouvoir. Et ils rechignent à payer, ils négocient depuis des mois. Finalement, ils devraient être ce soir au rendez-vous, mais c'est la première traite d'une série de trois, la plus légère. L'an prochain, l'addition sera 10 fois plus lourde et l'année d'après encore un petit peu plus. Personne ne voit comment le pays pourra éponger cette dette. Personne ne sait non plus comment imposer l'austérité à des Argentins de plus en plus pauvres. Il y a de quoi expliquer que les psys en ville, et Dieu sait s'il y a des psys, psychologues, psychiatres et psychanalystes à Buenos Aires, bref, tous les réducteurs de tête le confirment, l'angoisse taraude chacun, et c'est normal, parce que le traumatisme c'est la répétition, et le ciel est déjà tombé sur la tête des Argentins.
Oui, c'était il y a 20 ans, la crise de 2000 ans, le pays s'était effondré à l'époque.
Tous les Argentins savent ce qu'ils faisaient le 19 décembre 2001, le reste du monde avait les yeux rivés sur la chute des talibans, mais à Buenos Aires, l'État tente de sauver les banque de la faillite en gelant tous les comptes, interdiction de tirer plus de 250 pesos par semaine, c'est condamner tout un peuple à la faim, à la rue, à la rage, parce que les dépôts en dollars seront remboursés un jour en pesos, c'est-à-dire que les économies de chacun partent en fumée. Les pillages commencent et quand le pouvoir décrète l'état d'urgence, eh bien c'est comme s'il vidait un jerrycan sur un brasero. La foule envahit la Plaza de Mayo, la police tire dans le tas, il y a 40 morts, le président s'enfuit en hélico, le tango s'accélère, 3 présidents en 2 semaines et le plus grand défaut de paiement de l'histoire, 100 milliards de dollars, il y a plus d'argent en Argentine.
Est-ce que c'est le scénario qui est en train de recommencer là, Vincent ?
Bien, le Covid a relancé la spirale du cauchemar, une récession de 10% comme en 2001, ajouté 50% d'inflation annuelle et l'absence de devises qui provoque des dévaluations en cascade, la planche à billets tourne 24 heures sur 24 et l'imprimerie nationale n'y suffit plus, il a fallu sous-traiter au Brésil et en Espagne, le peso vaut 3 fois rien, plus personne ne lui fait confiance, à la place les commerçants rendent la monnaie en bonbons. Il y a un siècle, l'Argentine était l'un des pays les plus riches du monde. Son produit intérieur brut était celui de l'Allemagne. Aujourd'hui, 40% de la population vit au-dessous du seuil de pauvreté. Il faut pas chercher à ce déclin les raisons habituelles. Il n'y a pas de catastrophe écologique, de guerre ethnique, de natalité galopante, de retard technologique, de djihadistes ou d'autres furieux en guerre contre la société. Il y a juste la malédiction d'une économie qui est coupée du monde et d'une classe politique qui se paye de mots. Les péronistes viennent de prendre une raclée aux élections partielles. La droite s'imagine revenir au pouvoir par effet de balancier. Sauf que le dégagisme pourrait bien propulser le candidat anti-système, un ultra-libéral qui veut renverser la table. Dans tous les cas de figure, les Argentins n'ont pas fini de payer.
L'artère principale de Buenos Aires, entièrement investie par les manifestants. Des milliers de partisans de la gauche argentine crient leur opposition à l'accord passé entre le FMI et leur gouvernement pour rééchelonner une dette colossale, 44 milliards de dollars. Et pour eux, ce n'est pas aux citoyens de payer la facture.
Tout cela n'a rien à voir avec les besoins des travailleurs et du peuple. Tout cela ne sert qu'à payer une dette illégitime, impossible à rembourser, que le gouvernement a choisi de payer alors qu'il ne reste rien.
Avant la ratification, le texte doit passer l'étape du Parlement, où le gouvernement ne dispose pas de majorité absolue. Dans un pays où 40% de la population vit sous le seuil de pauvreté, cet énième accord est celui de trop. En 60 ans, les gouvernements successifs ont déjà sollicité à plus de 20 reprises l'aide du FMI. La dernière fois, c'était en 2018, sous l'ère du président libéral Mauricio Macri.
Qui est l'escroc ici? C'est Macri avec sa dette de 44 milliards. Tout cet argent a disparu comme par magie. Et maintenant, ils veulent que ce soit le peuple qui rembourse.
L'accord prévoit de rééchelonner le remboursement de la dette jusqu'en 2036, de réduire le déficit public et de contrôler l'inflation. Le président Fernandez assure que ces mesures n'affecteront pas les dépenses sociales ni la croissance économique. Mais le gouvernement peine à freiner l'inflation, 51% en 2021, impactant directement la vie des Argentins, déjà fortement touchés par la contraction de l'économie liée à la pandémie.
Ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Bienvenue en Argentine, gigantesque et diverse. Des ressources multiples, agricoles, énergétiques. Une capitale, Buenos Aires, aux faux airs de grandes villes européennes. Une ville d'artistes. On pense aux écrivains Borges et Cortázar notamment. L'Argentine dont on disait il y a un siècle, dans les années 1920, qu'elle était l'un des pays les plus riches au monde, avec un niveau de vie comparable à celui des États-Unis. Sauf que l'Argentine a connu une longue histoire d'instabilité politique et économique, on va le voir. Conséquence, d'après la Banque mondiale, le pays a passé depuis 1950 33% de son temps en récession et se trouve aujourd'hui en haut du classement des économies latino-américaines les plus en difficulté, après le Venezuela et le Pérou, la pauvreté concernant 40% de la population. La République argentine occupe la majeure partie du cône sud de l'Amérique. C'est le deuxième pays de l'Amérique du Sud par sa superficie, après le Brésil qui lui est frontalier au nord-est. Étendu depuis le tropique du Capricorne jusqu'à la Terre de Feu sur 3600 km, l'Argentine a ses autres frontières avec l'Uruguay à l'est, le Paraguay et la Bolivie au nord et le Chili à l'ouest. Malgré sa taille, presque 6 fois la France, l'Argentine a une population de seulement 45 millions d'habitants en 2020. La répartition de cette population se caractérise par de forts contrastes. Il y a d'abord la célèbre Pampa, ou ce que l'on appelle l'Argentine pampéenne, qui réunit près des 2/3 de la population du pays. C'est dans cette région que l'on trouve le Rio de la Plata, estuaire où se rejoignent les fleuves Paraná et Uruguay. Buenos Aires, avec ses 12 millions d'habitants, qui joue le rôle de port commercial et de centre d'appui pour les producteurs de la Pampa. En effet, la Pampa concentre la majorité de la production agricole du pays, ainsi que l'élevage, grâce au climat tempéré et aux précipitations abondantes. La plaine pampéenne couvre près de 600 000 km², soit l'équivalent de la France, divisée en très grands domaines d'exploitation, les estancias. Alors voyons maintenant le nord du pays, que l'on appelle aussi l'Argentine tropicale. Nettement moins développée que la région pampéenne, elle regroupe les provinces avec une population de plus de 7,5 millions d'habitants. Le climat de la province de Misiones est tropical, c'est là que se trouvent les chutes d'Iguassu, célèbre cascade inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Dans le Gran Chaco, l'alternance de saisons humides et sèches permet l'élevage de bétail et la culture du coton. Autre caractéristique géographique emblématique de l'Argentine, la cordillère des Andes à l'ouest du pays, qui culmine au mont Aconcagua à 6959 mètres, l'un des plus hauts sommets du monde. Au pied des Andes arides, les villes coloniales de Mendoza et de San Juan sont irriguées par les cours d'eau descendant des montagnes qui permettent la viticulture et l'agriculture. Enfin, au sud du pays, autre paysage célèbre, la Patagonie. C'est un territoire de près de 800 000 km² qui ne compte qu'un peu plus de 2 millions d'habitants. La Patagonie se caractérise avant tout par de grandes étendues vides et peu hospitalières. La Patagonie est pourvoyeuse d'énergie pour le reste du pays, avec les gisements de gaz et de pétrole de Neuquén et du golfe de San Jorge et l'équipement hydroélectrique du rio Neuquén. Elle reste une région fragile, du point de vue tant environnemental que social. Malgré cette incroyable diversité, l'Argentine s'est construite essentiellement autour de l'agriculture et de l'élevage, comme on va le voir maintenant. Avec un troupeau de 54 millions de bovins pour 45 millions d'habitants, rappelons-le, l'Argentine, c'est d'abord le pays de la vache. L'élevage, qui se fait encore beaucoup en prairie, donne des viandes de très grande qualité, mais difficiles à exporter du fait des quotas ou parce que la fièvre aphteuse n'a pas été éradiquée. Du coup, c'est la Chine, moins regardante, qui achète les trois quarts de la viande destinée à l'exportation. La production de blé représente environ 20 millions de tonnes par an. Et dans les années 1990, l'agriculture connaît un renouveau avec la fantastique expansion du soja, à destination notamment de l'Europe, pour nourrir le bétail, et dont la plus grande part est aujourd'hui destinée, là encore, au marché chinois. Toutefois, l'usage massif du Roundup, les variétés transgéniques, les aspersions aériennes et la course au gigantisme nourrissent de fortes critiques. Une géographie contrastée, de grandes propriétés agricoles et une élite commerçante dont nous allons maintenant vous raconter l'histoire. Car c'est cette élite, originellement basée à Buenos Aires, qui a voulu et porté l'indépendance vis-à-vis de la royauté espagnole en 1810. Tout au long du XIXe siècle, ces élites commerçantes s'attachent à maintenir l'unité du territoire, malgré les tentations séparatistes des caudillos, les chefs locaux liés aux grands propriétaires terriens. Entre 1850 et 1860, ces conflits s'apaisent avec la mise en place de la Constitution, toujours en vigueur dans ses grandes lignes, après une refonte en 1994. Rédigée sur le modèle de celle des États-Unis, elle combine présidentialisme et fédéralisme. Avec ce qu'on a appelé la « campagne du désert », le territoire s'agrandit vers le sud en Patagonie. Puis vient la conquête du nord. Dans les deux cas, les populations amérindiennes sont balayées et les terres ouvertes à la colonisation agraire. De 1880 à 1916, l'oligarchie des propriétaires fonciers et des commerçants accapare la vie politique. L'Argentine est aussi un véritable Eldorado qui, entre 1870 et 1930, accueille 6 millions d'immigrants venus d'Italie et d'Espagne. Cette immigration, combinée à l'élimination des populations amérindiennes, fait que l'on dit aujourd'hui de l'Argentine qu'elle est le plus européen des pays sud-américains. Pays gigantesque mais peu peuplé, on l'a vu, incroyable diversité naturelle mais surexploitation d'un écosystème dont les richesses profitent historiquement à une élite qui concentre les pouvoirs, l'Argentine, on l'aura compris, est une nation aux possibilités infinies mais qui semble toujours empêchée. Pour comprendre pourquoi, il faut aussi regarder du côté d'un modèle politique singulier qui est à la fois une force et une faiblesse. En effet, l'Argentine a inventé un mouvement politique, le péronisme, du nom du général Juan Domingo Perón et de sa célèbre épouse Eva Perón, surnommée Evita. Lui fut président de la République de 1946 à 1955, puis en 1973-74. Mélange d'avancées sociales, de nationalisme et de populisme avec la mise en place d'un État-providence interventionniste, le péronisme tisse un réseau social serré unique dans cet immense pays, en s'appuyant sur les syndicats, les clubs et les associations de quartier. Entre les présidences de Perón, des juntes militaires se succèdent, soutenues par les élites traditionnelles. De 1976 à 1983 notamment, la plus dure de ces dictatures, dirigée entre autres par le général Videla, est responsable de la mort ou de la disparition de 30 000 personnes. Depuis les années 1980, les héritiers de Perón au sein du parti justicialiste sont nombreux, mais ils représentent des tendances très différentes, voire opposées, de la très néolibérale présidence de Carlos Menem aux plus interventionnistes, telles celles de Néstor puis de Cristina Kirchner de 2003 à 2015. Les péronistes alternent au pouvoir avec les radicaux de l'UCR et plus récemment avec une coalition de droite libérale sous la présidence de Mauricio Macri. Point commun à ces dirigeants de tous bords, la corruption, qui crée une perte de confiance du peuple vis-à-vis de ses élus. Une perte de confiance due aussi aux deux grandes crises traversées par le pays, voyons pourquoi. la crise du début des années 2000 et celle que le pays vit actuellement. Des crises qui viennent entre autres de ce qui fait la force du pays, on l'a vu, la domination de l'agriculture. En effet, elle rend le pays trop dépendant aux fluctuations des cours mondiaux. En parallèle, les dirigeants successifs ont insuffisamment diversifié l'économie. Car même si une partie des sommes accumulées par l'agriculture est réinvestie dans l'immobilier ou la consommation, le plus souvent, elle quitte le pays pour des places financières plus sûres et cette fuite des capitaux accentue la dévaluation monétaire. L'Argentine qui n'a pas su par ailleurs conduire de politique étrangère stratégique. Les tentatives d'intégration commerciale avec le Mercosur ou marché commun du Sud auraient pu aider à surmonter ces obstacles économiques, mais alors qu'il fête ses 30 ans, le projet économique s'est essoufflé. Du coup, aujourd'hui, c'est la Chine qui se présente comme étant une opportunité pour le développement économique. Elle est intéressée par les matières premières et les denrées alimentaires de l'Argentine, puisqu'elle est, comme on l'a vu, le principal destinataire pour les exportations de viande et de soja. La Chine est aussi prête à investir dans le financement d'infrastructures, comme la construction du barrage sur le rio Santa Cruz, dans l'extrême sud de la Patagonie. Voilà pour ce voyage en Argentine, au pays des occasions manquées, des crises qui nourrissent des tensions sociales exacerbées par la pandémie de Covid. Conséquence, l'ascension fulgurante du très radical Javier Milei, nouveau venu dans la politique argentine, qui se revendique de l'ancien président américain Donald Trump, du brésilien Jair Bolsonaro et du parti d'extrême droite espagnol Vox. Il se dit anti-impôt, anti-État, pro-armes et climato-sceptique et résume son ambition pour l'Argentine en ces termes « dynamiter le système de l'intérieur ». Tout un programme.
Et ainsi se termine ce programme en français de RAI l'Argentine vers le monde. On se retrouve dans une semaine.